du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église a choisi pour ce troisième dimanche après Pâques de textes un petit peu compliqués. Premier tiré de l'Épître de Saint-Pierre, et de l'autre le texte tiré du discours après la scène de notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres en Saint Jean chapitre 16. Et ces deux textes doivent être lus ensemble et ils se complètent l'un et l'autre. Notre Seigneur nous prévient, nous donne un avertissement. Il sait qu'il va bientôt être crucifié, c'est juste avant la Passion, juste avant le Vendredi Saint. Il a parlé de façon très intime avec ses apôtres et il les avertit qu'il allait devoir partir et qu'il reviendrait. Il sait que le cœur des apôtres est envahi par la tristesse et il leur dit « Vous êtes maintenant dans la tristesse ». Il explique pourquoi. « Parce que vous êtes des étrangers, des voyageurs dans ce monde », dit-il. Et je pense que ce texte s'adresse à chacun d'entre nous. Nous aussi nous sommes dans la tristesse parce que nous perdons souvent notre Seigneur Jésus-Christ, par le péché malheureusement. Nous aussi, nous sommes dans la tristesse parce que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous sommes des voyageurs parce que nous sommes, l'Église a un mot spécial pour ça, des viateurs, un mot qui est peu utilisé en français. Ça veut dire nous sommes dans la via. Via en latin, c'est le chemin. Nous sommes en chemin pour aller de ce ciel, de cette terre au ciel. Et nous sommes des étrangers parce que notre patrie n'est pas ici-bas. Notre patrie est au ciel. C'est là le monde qui nous attend. Et nous devons donc, même si nous sommes obligés de garder les deux pieds ici-bas, sur le chemin, sur terre, nous avons à regarder le ciel avec la tête, avec les yeux, avec l'intelligence, regarder vers le ciel où bon Dieu nous attend. Donc nous sommes en chemin, nous pouvons pas encore posséder ce que nous cherchons avec tant d'ardeur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il y a cette tristesse qui va nous envahir précisément parce que nous ne voyons pas encore le but que nous cherchons à atteindre. Et nous voyons aussi l'état lamentable de notre pays. On voit un peu ce qui se passe en France avec tous ces millions de Français qui vont déposer leurs grains d'encens à l'autel de leur glorieuse République pour savoir s'ils vont s'inoculer la peste ou le choléra. Quelle tristesse, mes chers frères. Comme nous aurions besoin aujourd'hui d'une Sainte Jeanne d'Arc pour nous ramener au véritable combat. Alors que devons-nous faire, mes bien chers frères? Eh bien, il faut surtout ne pas se décourager à cause de cette tristesse. Il y a une bonne tristesse, il y a une mauvaise tristesse. Il y a une certaine tristesse qui nous rappelle que sans le bon Dieu, on ne peut absolument rien faire. Il y a une mauvaise tristesse qui nous pousse au désespoir. C'est bien sûr de cette tristesse-là qu'il faut nous débarrasser. Et justement, parce que cette tristesse est là dans notre cœur très souvent, le bon Dieu va nous parler de la joie. Il va rappeler à ses disciples, il va leur dire, « Je vous verrai de nouveau. » Et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Et le bon Dieu nous dit, « Vous avez perdu une joie humaine. Je vais vous donner une joie divine. » La joie humaine est une joie très volatile qui peut partir n'importe quand. La joie divine que je vous donne est au contraire une joie ancrée sur la vertu de foi. Donc une joie beaucoup plus sûre, beaucoup plus certaine, une joie qui nous oblige à regarder vers le ciel. Même si nous vivons dans une fin de civilisation, on peut dire. Nous vivons dans une gigantesque poubelle, c'est ce qui est devenu la France malheureusement, une gigantesque poubelle. Même si nous vivons dans cette poubelle, nos yeux doivent toujours regarder vers le ciel parce que le bon Dieu s'occupe de nous. Et nous aide, même si nous vivons des circonstances épouvantables, nous aide à conserver la foi, à conserver les yeux levés vers le ciel, justement pour conserver la vertu de charité. Et si nous avons en nous cette vertu de charité, même encore une fois, si nous vivons dans la poubelle, notre cœur doit être plein de joie, mais cette joie surnaturelle que Dieu seul peut donner. Le bon Dieu ne nous donne pas, ne veut pas que nous ayons en nous la paix du monde, la joie du monde, il nous donne la paix divine, la joie divine qui est hantée, bien sûr, sur la croix. Hantée sur la croix qui, humainement parlant, semble quelque chose de difficile, de dur et de rugueux. Et qui en fait est la croix du salut, la croix qui ouvre la porte du ciel. Voilà pourquoi il faut avoir en nous cette joie. Et cette joie va nous donner, le dit Saint, à la fois Saint Pierre et l'évangile d'aujourd'hui en Saint Jean, cette joie va nous donner la véritable liberté. On nous parle à longueur de journée de liberté, mais la liberté républicaine dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, c'est un esclavage, mes bien chers frères. La liberté de notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, est une liberté qui libère, la véritable liberté. Qu'est-ce que c'est que la véritable liberté? C'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Facultas activa servum, servatur dinensis finis, dit Saint Thomas. Il y a le choix des moyens en gardant l'ordre à la fin. Quelle est la fin de notre vie? Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Pour posséder Dieu. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pour aller un jour le rejoindre au paradis. Et nous avons la liberté de choisir les moyens. On n'a pas la liberté de choisir la fin. Quand on prétend vouloir choisir la fin pour laquelle nous sommes sur la terre, à ce moment-là, ce n'est plus la liberté dont on parle, c'est la licence. Et la licence a pour conséquence de détruire complètement les âmes. Alors il faut justement choisir cette liberté, la liberté qui nous élève encore une fois vers le ciel, la liberté de choisir le meilleur chemin pour nous pour aller au ciel, chemin qui est différent pour chacun d'entre nous. Le chemin que j'ai choisi en tant que prêtre pour aller au ciel n'est pas le même que le chemin que vous avez choisi dans le monde pour aller au ciel. Mais ces deux chemins vont se retrouver un jour au ciel. Et donc la véritable liberté, c'est quoi? Simplement l'usage de notre intelligence, de notre volonté, pour choisir le meilleur chemin, avec la grâce du bon Dieu, l'éclairage du don de sagesse, du don de conseil, pour choisir le meilleur chemin, le chemin le plus rapide pour nous, pour aller au ciel. Et le chemin qui est le plus rapide et le plus pratique pour moi n'est pas forcément le même chemin que celui du voisin. Alors, mais bien sûr, il faut vraiment comprendre donc ce qu'est cette liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est donc une faculté que nous avons en nous de lutter contre les ennemis, précisément de cette liberté. Et quels sont les ennemis de notre liberté? Quels sont les ennemis qui cherchent à nous rendre esclaves? Quand on veut détruire la liberté d'un individu, on l'enchaîne. Un esclave est enchaîné, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'y a pas de liberté. Et quelles sont les trois chaînes avec lesquelles le démon, le monde, cherche à nous enchaîner? Ce qu'on appelle les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Concupiscence des yeux pour nous proposer tous les plaisirs du monde et essayer de remplir notre âme avec des choses superficielles pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses importantes. Concupiscence de la chair pour pourrir notre âme avec toutes les tentations d'impureté. Et enfin l'orgueil pour essayer de nous faire croire qu'on peut devenir le bon Dieu nous-mêmes, pour diviniser l'homme et chasser le bon Dieu de notre âme. Et donc quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est vraiment libre, la liberté catholique, la liberté du chrétien, c'est quoi? C'est la liberté qui nous permet de couper ses chaînes. Quelqu'un qui est esclave des trois concupiscences, c'est quelqu'un qui n'est plus libre, justement, précisément parce qu'il devient esclave. Au contraire, la personne qui est vraiment libre, c'est la personne qui a pu, avec la grâce du bon Dieu, couper ces trois chaînes, couper la concupiscence de l'orgueil, couper la concupiscence des yeux, couper la concupiscence de la chair. Donc, quelles sont les personnes qui sont vraiment libres? Les personnes qui sont vraiment libres, finalement, sont les religieux. Les religieux qui, précisément par leurs trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, ont coupé ces trois concupiscences. Par le vœu de pauvreté, ils coupent la concupiscence des yeux. Par le vœu de chasteté, ils coupent la concupiscence de la chair. Et par le vœu d'obéissance, c'est plus difficile à suivre, ils coupent l'orgueil. Et donc, puisque vous ne pouvez pas, évidemment, tous devenir des religieux au sens fort du terme, parce que vous avez votre devoir d'État à remplir dans le monde, il faut au moins, mes bien chers frères, que vous ayez en vous cette véritable liberté qui vous donne l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Et c'est ça le plus important. En face de nous, nous avons quoi? Nous avons une république qui ne cherche qu'à une seule chose, c'est imposer les trois concupiscences. Les yeux, la chair, l'orgueil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment répondre à cela? Par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. En apprenant à vos enfants à obéir, par exemple, vous apprendrez à vos enfants à devenir des adultes responsables, qui seront capables de dire non à toutes ces folies qui courent partout aujourd'hui. Et c'est ce que nous dit le texte sacré, Le texte sacré nous dit « Comportez-vous comme des hommes libres, non pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté. » Ce n'est pas la liberté du monde dont on parle, c'est la véritable liberté, la liberté de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre cette liberté. Les gens du monde, quand ils voient un religieux, ils disent « Pauvre type, littéralement. Pauvre type parce que cet homme, cette femme, ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont obligés, liés par les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Nous, nous sommes libres. » Mais en fin de compte, c'est l'inverse qui est vrai. En face de nous, nous avons souvent des gens, dans le monde moderne, nous avons des gens qui sont liés justement par ces trois concupiscences. C'est eux qui sont des esclaves. Ils pensent que nous sommes esclaves et nous pensons qu'ils le sont eux-mêmes. Donc il y a deux esclavages là. Ou nous serons esclaves du démon, ou nous serons esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut évidemment être esclave des deux côtés à la fois. Celui qui est esclave du démon, de la chair, du monde moderne, des trois concupiscences, eh bien cette personne-là aura la véritable liberté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'inverse est vrai aussi. Alors il nous faut faire un choix, et pendant à chaque fois que nous pouvons nous approcher des sacrements, sous le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, eh bien il nous faut justement méditer ces choses-là, demander au bon Dieu, par la confession, par la communion fréquente, de couper ces chaînes. Parce que malheureusement, les chaînes, une fois qu'elles sont coupées, elles ont tendance à repousser de nouveau. Comme la queue dans les arbres, on coupe, et la queue va repousser, c'est la même chose pour nous. Pas quoi, parce qu'on a coupé une fois les chaînes par une bonne confession, une bonne communion, on a coupé la chaîne, la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair. Il ne faut pas se croire débarrassé en disant maintenant ça va, je suis comme un ange. Pas du tout. Ce n'est qu'au ciel. Alors que nous ne serons plus dans le temps, au ciel, on n'aura plus à s'inquiéter parce qu'une fois que les concupiscences sont mortes, quand nous sommes accueillis au ciel, c'est fini pour toute l'éternité, nous n'aurons plus à nous battre. Ici-bas, c'est un combat. N'oublions pas, mes bien chers frères, que nous appartenons à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est qu'un soldat ? Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Que pouvons-nous penser d'un soldat qui ne voudrait pas se battre ? Le soldat qui veut bien utiliser ses armes à condition qu'on ne fasse pas de mal à l'adversaire. C'est de l'irénie, c'est une espèce de pacifisme spirituel qui entraîne évidemment les gens à la folie. Au contraire, demandons à notre Seigneur, demandons à Notre-Dame de nous donner justement cette force divine capable de tout transformer. Et cette force, où allons-nous la trouver ? Dans l'urne républicaine, devant le tabernacle. Voilà la véritable question. Ces fous du monde moderne pensent qu'ils vont changer les choses avec un bout de papier dans une urne. Nous pensons que la seule personne capable de changer les choses, c'est précisément notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ va changer les choses par une chose, si vous voulez, qui apparemment semble un échec complet. Si on regarde la mort de notre Seigneur Jésus-Christ avec un regard purement humain, on va considérer que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, à 3h de l'après-midi, est un échec total. Il est mort, c'est fini, terminé. Mais c'est au moment précis où le démon pense avoir remporté la victoire, à cet instant précis, 3h de l'après-midi du vendredi saint, que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, rouvre les portes du paradis qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Donc ce qui apparaît pour le monde comme un échec total, en fait, est une victoire extraordinaire pour nous, catholiques. C'est pour cela que, entre ces deux religions, si vous voulez, entre la religion républicaine qui adore liberté, égalité, fraternité, la religion catholique qui adore la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, il y a, si vous voulez, une différence tellement incroyable qu'on ne peut même pas construire de pont. La seule solution, c'est la conversion. Sortir d'une religion pour entrer dans la véritable religion. Sortir du culte de l'homme pour rencontrer le culte de Dieu. Sortir de l'adoration de l'homme pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Sortir de l'adoration de l'homme qui se dit « Je ne servirai pas », qui se tient debout devant Dieu, pour passer à l'adoration de Dieu, du serviteur de Dieu qui se met à genoux devant Dieu en disant « Seigneur, je ne suis pas digne d'être un catholique. Je ne suis pas digne de rentrer dans votre maison, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. » C'est le choix ou l'orgueil ou l'humilité. C'est le choix du paradis sur la terre, du paradis au ciel. Voilà le véritable problème. Et ouais, mais bien cher frère, ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour cela que l'Église nous dit, comportez-vous comme des hommes libres, la véritable liberté. La véritable liberté, c'est celle que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par la croix. La véritable liberté, c'est celle, la force de la liberté véritable, elle nous est donnée par la Sainte Eucharistie. Parce que précisément par la Sainte Eucharistie, nous nous associons à celui qui nous a donné la véritable liberté par la mort sur la croix. Voilà pourquoi la messe est tellement importante. C'est par l'autel de la messe, l'autel du sacrifice, que nous retrouvons ce contact avec la passion, passion qui évidemment nous amène par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous amène à la liberté des enfants du bon Dieu. Alors comment conserver cette véritable liberté? Eh bien, Saint Pierre nous dit qu'il faut d'abord s'abstenir des convoitises de la chair qui combattent contre l'âme. S'abstenir des convoitises de la chair. On retrouve exactement la même chose. Pour conserver cette véritable liberté, il faut couper les chaînes. Et comment coupe-t-on les chaînes? Est-ce que nous sommes capables de les couper par nous-mêmes? C'est impossible. Il faut que ces chaînes, elles grandissent tout le temps, elles grossissent de plus en plus, elles deviennent de plus en plus fortes. Et pour les couper, il faut, je dirais, une pince spéciale que notre Seigneur Jésus-Christ est seul à pouvoir nous donner. Donc il faut demander avec humilité, Seigneur, aidez-moi à couper ces chaînes. Détruisez en moi ma volonté propre pour que je puisse mettre votre volonté à la place de la mienne dans mon cœur. Détruisez en moi, oh mon Dieu, la concupiscence de la chair et mettez l'esprit de chasteté. Détruisez en moi la concupiscence de l'orgueil et mettez en moi l'esprit d'obéissance, l'esprit de docilité. Détruisez en moi la concupiscence des yeux et mettez en moi l'esprit de pauvreté. Et si vous voyez, une fois que ces chaînes sont coupées, on devient évidemment beaucoup plus léger. À ce moment, on peut commencer à voler vers le bon Dieu. Donc les seules personnes libres, vraiment libres qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui sont qui? Sont les catholiques. Les catholiques qui pratiquent leur foi catholique. Les catholiques qui se coupent justement de l'esprit du monde pour pouvoir voler vers le bon Dieu. Voilà ce qu'il faut, mes bien chers frères, expliquer à vos enfants. On ne peut pas, c'est absolument impossible, plaire à Dieu et plaire au monde à la fois, c'est impossible. Alors il faut aussi rappeler ces choses-là en ces périodes électorales. Ne pas oublier justement que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Ne croyez pas à toutes ces imbécilités de ceux qui prétendent que nous avons un devoir électoral. Il n'y a pas de devoir électoral, bien cher frère. Il y a le devoir de servir notre Seigneur Jésus. Il y a le devoir de mettre notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Vous ouvrez le catéchisme de Saint-Pédis, il n'y a pas un mot sur le devoir électoral. Vous ouvrez le catéchisme du Concile de Trente, il n'y a pas un mot, encore une fois, sur le devoir électoral. Quel est notre devoir? Servir Dieu. Non pas aller associer la République, servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour servir, qu'est-ce qu'il faut faire? Première condition pour servir, évidemment, c'est se mettre à genoux. Donc il faut s'abstenir des convoitises de la chair. Et deuxième conseil de Saint-Pierre, faites le bien pour réduire en silence l'ignorance des gens insensés. En face de nous, nous avons des gens qui ont complètement perdu le bon sens, qui vivent dans un monde totalement déconnecté de la réalité, un monde virtuel. Eh bien, il faut justement, par l'exemple que nous donnons, par l'exemple de la sainteté personnelle, parce que c'est cette sainteté qui est communicable, l'exemple de cette sainteté que nous pourrons justement, avec la grâce du bon Dieu, obliger ces gens à lever les yeux vers le ciel. Monseigneur Lefebvre nous racontait que quand il était au Gabon et en Côte d'Ivoire, il était surtout au Gabon en mission, ce qui frappait le plus les Noirs qui étaient des païens à l'époque là-bas, c'était justement que les missionnaires se coupaient de toutes les choses après lesquelles ces personnes couraient à longueur de journée. Ils avaient un mal fou à croire que vraiment ils pratiquaient la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et lorsqu'ils comprenaient que vraiment ces missionnaires pratiquaient la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, ils avaient l'exemple des pères, l'exemple des frères, l'exemple des religieuses là-bas, et bien à ce moment-là, ils comprenaient que la religion qu'on leur proposait était infiniment supérieure à la religion de l'animisme qu'ils avaient pratiquée depuis des générations et des générations dans leur pauvreté spirituelle. Et c'est la même chose pour nous. Vous voyez, on sent très bien qu'il y a un combat terrible qui se passe devant nous, bien chers frères. Et pour ce combat terrible, on a besoin de soldats qui aient la force du bon Dieu. On ne peut pas se battre avec notre force personnelle, c'est absolument impossible. La force, elle est où? Elle est au tabernacle. et au tabernacle. Donc cherchons dans le tabernacle, mes bien chers frères, ces moyens surnaturels pour réduire au silence l'ignorance des gens insensés. Voilà ce qu'il nous faut demander. Nous demanderons avec beaucoup d'humilité, c'est grâce à notre Sainte Vierge Marie. Nous sommes au mois de Marie. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider malgré les difficultés innombrables dans lesquelles nous devons nous battre à longueur de journée, en famille, en milieu professionnel, en milieu familial, en milieu social. Demandons au bon Dieu justement de nous donner cette force divine que lui seul peut nous donner, la force de la croix. C'est au pied de la croix, c'est au pied de l'autel, c'est au pied du tabernacle que nous trouvons cette force. Malheur à ceux qui cherchent consolation ailleurs que devant le tabernacle. Bon, certes, les gens du monde ont le droit de chercher des consolations sensibles dans la mesure où ils le font sans offenser le bon Dieu. Mais le religieux, c'est quelqu'un qui justement se coupe du monde, se coupe de la chair, se coupe de l'orgueil, se coupe des richesses du monde moderne pour aller chercher ces consolations que devant notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il va trouver une force divine, la véritable liberté, et avec ça, il pourra plus facilement aller au ciel et entraîner les autres après lui. Donc, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Supplions le bon Dieu de nous donner dans cette nuit de ténèbres épouvantables dans lesquelles nous sommes obligés de vivre humainement parlant, de nous donner les lumières dont nous avons besoin pour savoir quoi faire, pour savoir comment aider nos enfants à conserver la foi et nous-mêmes conserver cette foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.